Bienvenue à cet épisode des Prod, un balado de la Fédération de l'UPA de la Nodière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série qu'on vous propose où on s'attaque à un enjeu crucial, la menace des nouveaux tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump et les répercussions sur l'agriculture québécoise. Pour nous aider à comprendre la situation et les actions en cours, je reçois Charles-Félix Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles.
On n'en veut pas d'autres concessions sur la gestion d'offres. On a un bon système. On est moins dépendant des Américains. On le voit avec la question des tarifs. C'est une question de sécurité alimentaire. Nourrir notre population, ça, c'est vraiment fondamental. La gestion de l'offre au Québec, c'est près de 40% là, de notre agriculture. On a 115 usines laitières là, sur le territoire. Mm-hmm. C'est aussi de l'occupation du territoire avec les fermes, avec les usines. C'est de la création d'emplois.
Ouais.
C'est notre sécurité alimentaire.
Monsieur Ross, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode hors série. Au moment d'enregistrer, on est le 5 mars 2025, tout juste au lendemain de l'imposition des tarifs douaniers par le président américain. C'est le sujet qu'on va aborder d'ailleurs aujourd'hui, situation qui va quand même peut-être évoluer au cours de la journée. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, comme c'est la première fois qu'on se parle, j'aimerais ça que vous vous présentiez puis que vous nous parliez un peu de votre parcours et de votre rôle à l'UPA.
Bonjour Adèle, Charles-Félix Ross. Ça va faire en septembre 2025 près de 32 ans que je travaille à l'Union des producteurs agricoles. J'ai commencé à la Confédération, à la Direction recherche et politique comme économiste.
OK.
Je suivais les dossiers d'assurance récolte, de financement agricole, d'assurance stabilisation. Après 4 ans, je suis allé travailler pour la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, les producteurs de sirop d'érable, qui sont aujourd'hui les PEPAC.
Ouais.
J'ai travaillé 11 ans pour les producteurs et les productrices de sirop d'érable. On a mis en place avec le conseil d'administration, l'équipe de ce moment-là, le système d'agence de vente, le système de contingentement, les activités de promotion à l'international. Je suis revenu à la direction recherche et politique de l'UPA après 11-12 ans à la Fédération comme économiste en chef de l'UPA, puis aussi directeur de la direction recherche économie.
Mm-hmm.
Et depuis 2016, donc ça fait presque, ça va faire 9 ans ouais. ce printemps, je suis directeur général de l'UPA.
Donc économiste fait... Les finances, vous connaissez ça, donc c'est un dossier quand même que vous pouvez maîtriser malgré votre rôle peut-être généraliste là, maintenant de directeur général.
C'est mon dada là, c'est le sujet que je préfère le plus, tout ce qui est économie, finance, effectivement.
Justement, pouvez-vous expliquer brièvement la situation actuelle entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne les tarifs douaniers? Là, c'est quoi peut-être les dernières nouvelles ou qu'est-ce qui se passe actuellement avec la situation?
C'est un mot qui est fort, mais on est dans une guerre commerciale avec les États-Unis. C'est eux qui ont enclenché ce conflit-là, pour toutes les raisons qu'on lit dans les journaux, qu'on entend dans les médias. Monsieur Trump, il veut revitaliser son économie, il veut réindustrialiser les États-Unis, il veut réduire son déficit commercial, il veut peut-être financer là, ses éventuelles baisses d'impôts, puis... Comme il l'a dit dans plusieurs discours, le mot tarif, c'est le plus beau mot du dictionnaire. Mm-hmm. Donc, c'est l'outil, c'est son outil présentement pour faire en sorte d'atteindre ses objectifs. Et on est victime, le Canada, le Mexique, la Chine, éventuellement peut-être d'autres pays, on est victime des mesures de cette décision-là du gouvernement américain.
Puis peut-être pour mettre en contexte, justement, c'est quoi un tarif?
Un tarif... C'est une taxe.
Okay.
C'est une taxe sur les produits. Les produits, les marchandises. Sauf que la taxe, elle s'applique pas à l'épicerie, elle s'applique pas au magasin de détail.
Mm-hmm.
Elle s'applique lorsqu'un produit, une marchandise traverse une frontière. Donc,
okay.
Si au Canada, on exporte un bien XYZ vers les États-Unis, à la frontière, on collecte un tarif, une taxe sur la valeur du produit exporté. La façon que ça fonctionne, c'est il y a un importateur d'un produit canadien. L'importateur doit envoyer une preuve ou transmettre l'information à un bureau XYZ à l'effet qu'il s'est acquitté de la taxe sur le produit qu'il importe. Mm-hmm. Donc, normalement, donc, le camion qui se présente à la frontière, normalement, pour être dédouané, l'importateur doit avoir acquitté ce tarif-là, cette taxe-là, puis le douanier doit avoir l'information pour laisser passer là, le camion de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est carrément une taxe sur des produits, sur une taxe sur la valeur des produits qui traversent la frontière canadienne.
Oui, donc on peut en conclure que ça signifie en fait une augmentation des prix finalement peut-être aux consommateurs, considérant que l'importateur, lui, aura payé plus cher finalement. C'est là, un peu le risque. Là.
Ben, en fait, Warren Buffett, qui est un des plus grands financiers américains, un milliardaire qui a 94 ans, qui se mêle jamais de politique, a affirmé la semaine dernière que, effectivement, un tarif, là, on connaissait ça, c'est pas nouveau, et que c'était l'équivalent d'une taxe sur les produits qu'on importe, une taxe pour les Américains. Puis, fallait pas croire que ça serait la fée des dents qui paierait ça. Là. Ça
non.
va être, éventuellement, ça va être le consommateur ou les acheteurs américains. Mais dans la réalité, c'est un jeu de négociation. Donc, si l'acheteur américain est pas dans l'obligation d'acheter le produit canadien, il peut dire à son fournisseur canadien, baisse ton prix.
Ouais.
Donc, c'est sûr que éventuellement, la taxe, elle est payée ou le tarif est payé par l'importateur, mais il y a un jeu de négociation. Donc, dans certains produits, c'est l'exportateur qui a le gré au bout du bâton, qui est capable de dire, bon, si tu veux mon produit, mais paye la taxe.
Ouais.
Dans certains cas, ça va être le fournisseur qui va devoir assumer par une baisse de prix. Et dans d'autres cas, ça va être un partage. Parce que tu peux baisser un peu ton prix. Le dollar canadien a baissé.
Ouais.
Donc, tu vas avoir un petit peu plus de dollars américains pour le produit que tu... Donc, il va y avoir un jeu de négociation. Mais c'est un tarif en soi, ça nuit à la circulation des marchandises.
Ouais.
Ça amène un coût supplémentaire pour l'économie, pour le consommateur, pour les fournisseurs. Donc, c'est pas quelque chose qui est très, très efficace.
Non, effectivement. Puis justement, ça va toucher plusieurs secteurs. Mais dans le cas qui nous concerne, pourquoi est-ce qu'on considère que l'agriculture est particulièrement touchée au niveau du Canada puis du Québec, par exemple?
Parce qu'on est des exportateurs de produits agricoles vers le marché américain. On exporte le Québec, on exporte pour 9 milliards de dollars de produits annuellement vers les États-Unis. Le 9 milliards représente le 2/3 de nos exportations. Donc, demain, techniquement, si on impose, et c'est le cas aujourd'hui, un tarif de 25 % sur une période d'un an, on parle là, d'un peu plus de 2 milliards là, de taxes, de tarifs. Là, c'est énorme. Et on exporte énormément de porc, de viande de porc, de grains, de bœuf. Nos bovins, nos vaches de réforme, ils sont exportés là, vers les États-Unis, sont abattus aux États-Unis. Le sirop d'érable, le bleuet, des fruits, des légumes qu'on produit. Donc, ça va avoir un impact important là, sur notre activité agricole.
Bien, justement, vous avez nommé plusieurs productions, mais ce serait peut-être lesquelles qui sont le plus susceptibles d'être touchées par ces mesures-là?
Bien, toutes celles que j'ai nommées.
Ouais.
Mais il y a des. C'est sûr que si on prend, par exemple, la production de sirop d'érable, c'est le principal marché. On exporte plus que ce qu'on consomme au Québec.
Ah, ouais,
et le marché, c'est le marché américain. Le bleuet, c'est la même chose. Il y a des producteurs maraîchers également qui ont une forte proportion de leur récolte qui sont exportés sur le marché américain. Donc, ces productions-là, ils vont être plus touchés que d'autres productions. Production porcine, il y a une bonne portion qui est dirigée vers les États-Unis, mais il y a des marchés aussi asiatiques qui fait que il va y avoir un impact majeur, mais moins touché que, par exemple, le secteur de l'érable ou le secteur des bleuets ou certains secteurs maraîchers.
Puis peut-être, rapidement, parce que là, je sais qu'on peut s'embarquer peut-être dans une longue discussion par rapport à ça, mais pourquoi peut-être on exporte? C'est peut-être une drôle de question, là, mais le consommateur a peut-être l'impression que, justement, c'est peut-être pas un enjeu, nécessairement, les tarifs ou de consommer local, parce qu'on les a, ces produits-là, ici. Mais ça serait quoi la raison de pourquoi on en exporte autant? Est-ce que c'est qu'on n'en consomme pas assez ici pour la production qu'on fait? Comment ça fonctionne?
En fait, au Québec, on avait établi qu'en termes de production de calories alimentaires ou de volume, on produit assez de nourriture pour nourrir là, les 8 millions de Québécois. Mais si demain, on consommait tout ce qu'on produisait, on mangerait beaucoup de sirop d'érable, beaucoup de viande de porc, de produits laitiers. Donc, il y a une bonne partie de ce qu'on produit qu'on exporte soit vers le reste du Canada.
Oui.
Le Québec, on produit près de 80 % des yogourts au Canada qui sont consommés au Canada, près de 50 % des fromages. On est en gestion de l'offre, on n'exporte pas vers les États-Unis, mais on exporte quand même nos produits dans le reste du marché canadien. Bon, le sirop d'érable vers les États-Unis, le porc, c'est la même chose. Donc, on s'est spécialisé avec les années. C'est un peu nos fermes, il y a une centaine d'années, c'était des fermes qui étaient diversifiées, qui nourrissaient la communauté à côté, la communauté locale. Mm-hmm. Avec les années, l'agriculture s'est spécialisée, les producteurs ont développé des créneaux de production, puis on est bon dans ces productions-là. Donc, on en produit plus que qu'on consomme au Québec. Mm-hmm. Donc, on a besoin des marchés extérieurs, du marché canadien, du marché américain, des marchés internationaux pour être capable d'écouler l'ensemble de nos produits. Puis, en contrepartie, bien, on importe aussi des produits, mm-hmm. des fruits, on parle souvent des oranges, mais tout ce qui est fruits exotiques, ça vient des États-Unis, du Mexique, d'Amérique du Sud, des raisins. Donc, on importe aussi beaucoup de produits, ce qui fait qu'on a une diversité d'aliments là, dans nos épiceries qui fait qu'on a un régime qui est peut-être plus équilibré que ce que nos grands-parents avaient.
Définitivement. Puis, à court terme, est-ce qu'il y a déjà des effets qui sont observables pour les producteurs québécois? Parce que là, comme on le dit, les tarifs ont été imposés là, tout juste hier. Donc, on pourrait se dire qu'on ne voit pas encore d'effet, mais considérant que l'annonce a été faite depuis un petit moment, est-ce qu'il y a déjà des effets qui se font sentir?
Bien, le premier effet, ça a été la baisse du dollar canadien. On importe beaucoup pour faire fonctionner l'agriculture au Québec. On achète des intrants, on achète des équipements, de la machinerie. On achète pour plus de 2 milliards là, de produits qui viennent des États-Unis pour être capable de faire fonctionner notre agriculture. Donc, le fait que le dollar canadien ait baissé, mm-hmm. même s'il n'y avait pas de tarif, ça a eu un impact sur le dollar canadien. Bien, nos importations, nos intrants nous coûtent plus cher. Donc, les Américains ont imposé leurs tarifs. Nous, on a imposé également des contre-tarifs sur une petite liste, là, puis voir une plus grande liste là, dans un mois. On parle d'au-dessus de 100 milliards de dollars qui seraient. Mm-hmm. Et là, ça peut avoir aussi un effet. Déjà, la baisse du dollar a eu un impact, mais aussi les contre-tarifs là, qui ont été mis aujourd'hui en place par le Canada, puis ceux à venir pourraient avoir aussi un impact négatif là, sur notre agriculture, notre fonctionnement. Et c'est là que nous, on demande au gouvernement d'être très prudent par rapport aux contre-tarifs pour éviter d'avoir un double choc financier.
Oui, effectivement. Puis peut-être aussi en même temps pour les effets, je veux dire, observables à court terme, est-ce que, par exemple, la gestion de l'offre pourrait être impactée, on va dire, rapidement? Souvent, on le sait que c'est un aspect qui est discuté peut-être plus vite que d'autres quand il est question peut-être de problèmes économiques ou d'enjeux économiques?
Bien, court terme, la gestion de l'offre, elle a fait son travail, a fourni le marché canadien. Il va y avoir une augmentation des coûts de production parce que nos intrants qui viennent d'ailleurs vont coûter un peu plus cher. Mais ce système-là, dans une guerre commerciale, il fait son travail. Il fait vraiment, vraiment son travail. Puis il protège les consommateurs canadiens contre l'inflation des produits. Donc, à court terme, il n'y a pas vraiment d'impact sur les secteurs sous gestion de l'offre. En fait, ce qui va venir rapidement sur la table, puis c'est le président américain, les Américains l'ont évoqué. Ils nous disent que notre secteur laitier, particulièrement le secteur laitier, on est très, très, très méchant envers à l'endroit des producteurs américains. Là, donc,
c'est on leur laisse pas assez de place, c'est ça un peu qui dit.
C'est ça, ils veulent avoir accès à nos marchés, ils veulent être capables d'exporter leurs produits vers le Canada. Mm-hmm. Bon, ça fait partie des discussions, faut pas se mettre la tête dans le sable. Est-ce que éventuellement, s'il y a une négociation avec les Américains, une négociation sérieuse, est-ce que ça va être mis sur la table? Est-ce que les Américains vont nous demander des concessions supplémentaires? C'est sûr que ça va faire partie des discussions. Nous, ce qu'on souhaite, qu'on demande à nos gouvernements, notre gouvernement québécois dans un premier temps, mais notre gouvernement fédéral qui va négocier, c'est on n'en veut pas d'autres concessions sur la gestion de l'offre. On a un bon système. On est moins dépendant des Américains. On le voit avec la question des tarifs.
Ouais.
C'est une question de sécurité alimentaire. de sécurité nationale.
Ouais, ouais,
M. Trump, il met des tarifs pour des raisons de sécurité nationale, le fentanyl et autres, qu'on sait qui est un peu... nourrir notre population, ça, c'est vraiment fondamental.
Ouais.
Et la gestion de l'offre au Québec, c'est près de 40% de notre agriculture. On a 115 usines laitières là, sur le territoire. Mm-hmm. C'est aussi de l'occupation du territoire avec les fermes, avec les usines. C'est de la création d'emplois.
Ouais.
C'est notre sécurité alimentaire. Donc, même s'il y a des demandes de la part des Américains, nous, ce qu'on demande, on croit que c'est fondamental. Ce système-là doit être protégé parce que c'est une façon de protéger notre capacité à nourrir notre population.
Puis, comme je le disais, là, la décision s'est prise hier là, d'imposer les tarifs. Ce serait quoi les impacts peut-être les plus probables sur les entreprises agricoles, je vais dire à peut-être moyen terme, tu sais, le temps bon, que ça se mette un peu en place. Puis, vous avez évoqué tantôt le 1 an. Est-ce que ça a été annoncé que les tarifs seraient imposés pour une période de temps?
Non, c'est pas pour 1 an, mais lorsqu'on annonce des... On exporte pour 9 milliards de dollars, c'est toujours sur une période d'un an. On va imposer des tarifs sur 30 milliards de produits. Sur un an, les produits qu'on va viser par les contre-tarifs canadiens, ça représente des importations de 30 milliards.
OK, je comprends. Fait que c'est juste basé sur les chiffres qui sont sortis.
Qui sont sortis, là. Pour être capable de comprendre.
Je comprends.
On n'importe pas 30 milliards dans une journée.
Non, mais non, clairement pas. Je comprends. Fait que à ce moment-là, bon, ma question serait la suivante. Là. Mettons, sur un an, justement, comme on voit, ce serait quoi les impacts les plus probables, peut-être, pour l'agriculture?
Les impacts... Les plus probables, là, en fait, c'est une augmentation du coût des intrants. Effectivement, ça va coûter plus cher en équipement, plus cher parce que le dollar canadien va baisser. Puis si on met des contre-tarifs, ça va venir augmenter le coût de nos dépenses, la dépense des entreprises agricoles. Les productions qui sont destinées vers le marché américain, eux, ils vont être vraiment impactés. Le bleuet, le sirop d'érable, certains secteurs maraîchers, la production de porc, la transformation de porc, ça, c'est des secteurs qui vont être directement touchés par les tarifs. Mais je vous dirais, l'agriculture en général, la question ça va vraiment amener un choc financier sur notre économie, ça va amener un ralentissement, il y a des économistes qui parlent peut-être de récession au Canada, mais dans ces périodes-là, l'agriculture en général... C'est toujours un des secteurs qui s'en sort le mieux.
Mm-hmm.
Parce que la demande est là. Les gens ont besoin de
manger. Mais ils n'ont pas le choix, oui.
Donc, il y a une forme de résilience dans les crises. Mm-hmm. Que ce soit la pandémie, on l'a vu dans la pandémie. Ouais. Que ce soit en 2008-2010, il y avait une crise financière internationale. Dans les crises économiques, l'agriculture s'en sort relativement bien.
Mm-hmm.
Avec la question des tarifs, c'est que c'est certains de nos secteurs qui vont être plus touchés que d'autres.
Mm-hmm.
Et nous, c'est ce qu'on revendique auprès des gouvernements, c'est que ça va prendre de l'aide, pas seulement que du support aux très grandes entreprises, ça va prendre de l'aide aussi aux secteurs agricoles, aux secteurs qui sont les plus touchés. Puis pas des prêts, là. On veut pas réendetter les entreprises, ça va prendre de l'aide directe.
Mm-hmm. Bien, en fait, c'est que ma prochaine question, c'était ça. T'sais, c'est quoi la position de l'UPA par rapport, bon, évidemment, à la situation? On l'a abordé un peu au fil des questions. Puis c'est quoi les démarches qui ont été entreprises jusqu'à maintenant là, pour défendre les intérêts des producteurs?
Nous, là, en fait, on a eu plusieurs rencontres avec les gouvernements provinciaux, fédéral. On a même tenu une conférence de presse la semaine dernière où on a invité M. François-Philippe Champagne, le ministre de l'Industrie et Commerce du Canada. Puis toutes les rencontres politiques qu'on a faites, les messages qu'on véhicule, c'est que ça prend vraiment une aide directe aux entreprises. Le secteur agricole, les entreprises agricoles, les producteurs agricoles ne doivent pas être oubliés dans l'aide aux entreprises.
Mm-hmm.
Donc, nos gouvernements vont faire des annonces, ils vont supporter l'économie, mais le secteur agricole, particulièrement les secteurs touchés, va devoir être aidé, supporté, puis pas par des prêts, par un endettement supplémentaire.
Ouais.
En fait, lorsqu'on comprend la logique de Trump, il veut revitaliser son économie, il veut sortir ses entreprises de l'endettement.
Mm-hmm.
Nous, on doit pas, si on veut vraiment supporter dans cette guerre commerciale-là nos entreprises, on ne doit pas les réendetter.
Ah non, pas du tout. Ouais.
On doit travailler à alléger leur bilan. Puis, par rapport à ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'un, on est dans une tempête. Est-ce que les tarifs vont être levés demain? Est-ce qu'ils vont être levés dans 6 mois? On n'a aucune idée. Puis ils peuvent être levés demain puis être remis dans 1 mois. les messages qu'on souhaite à l'Union passer là, aux entreprises agricoles, à nos membres, c'est qu'on va devoir être les producteurs vont devoir être très prudents là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. La situation financière, la situation économique ne sera pas facile. Taux d'intérêt qui demeure élevé. Augmentation du coût des intrants. Donc, il va y avoir un choc financier. Donc, les entreprises agricoles vont devoir être prudentes. Mm-hmm. Nous, on a un appel à la prudence au niveau des investissements. Moi, si j'ai un projet d'investissement sur mon entreprise, bien, les taux d'intérêt vont probablement baisser moins vite que prévu.
Mm-hmm. OK.
Peut-être.
Oui.
Mais il y a des chances que ce soit ça. Mes intrants vont me coûter plus cher. Donc, mon projet, du jour au lendemain, mm-hmm. les matériaux de construction qui viennent des États-Unis, donc du jour au lendemain, mon projet, il me coûte plus cher. Donc, il y a des entreprises qui sont en très bonne situation financière, ils ont des coussins financiers, mais il y a quand même un appel à la prudence au niveau des investissements sur les entreprises dans les prochaines semaines, prochains mois, tant qu'on ne verra pas un petit peu plus clair sur ce qui va arriver, ça va être quoi les programmes de soutien, de support du gouvernement, de nos gouvernements. Donc, il y a un appel à la prudence.
Oui, définitivement. Puis, on parle justement des différents paliers de gouvernement. On le sait, on s'en parlait tantôt, puis ça a été annoncé. Le premier ministre Justin Trudeau doit parler au président américain Donald Trump probablement au courant de la journée. On va voir effectivement ça va être quoi la décision. Est-ce que c'est un report, un arrêt? Bon, bref. Les discussions que vous avez justement avec le gouvernement peut-être canadien ou québécois par rapport aux mesures d'atténuation, est-ce qu'il y a déjà peut-être des pistes de solutions qui ont été pensées ou qui ont été discutées déjà en amont de la décision qui a été prise hier ou c'est plus en attente de voir le quand le coup près va tomber, finalement, là, comment ça se passe, les discussions avec les différents paliers de gouvernement?
Mais le gouvernement est en consultation. Par exemple, sur les contre-tarifs, il y a une petite liste. Sur la petite liste, là, nous, on a passé à travers les lignes tarifaires. Donc, ça va être quoi les produits qui vont être taxés par les Canadiens, les produits américains? Mm-hmm. On est assez confortable, on est assez à l'aise avec la liste qui a été présentée. Là, il va y avoir une plus grande liste. Et sur la plus grande liste, il y a une consultation qui va être faite. Il y a 4000 lignes tarifaires. Donc, la liste a été rendue publique hier.
Okay.
Donc là, il y a des économistes à la direction recherche et politique qui sont en train de regarder.
Faire des contrôles F, peut-être.
Des contrôles F, des recherches avec des mots-clés.
Oui, c'est ça.
Puis, donc, on va regarder est-ce qu'il y a des choses qui nuisent. Puis, s'il y a des choses qui nuisent à notre secteur, on va faire valoir à l'effet qu'il ne faut pas se tirer dans le pied avec des contre-tarifs. Il y a des productions, des secteurs de production qui nous ont demandé exemple, le secteur des fraises, le secteur des pommes. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut taxer les fraises américaines? Est-ce qu'on peut taxer les pommes américaines? Et bon, hier, avec contrôle F, là,
oui.
le mot pomme est ressorti et le mot fraise est ressorti. Donc, normalement, dans 1 mois, c'est quand ils vont mettre cette grande liste-là en application, les pommes américaines et les fraises américaines. Et ça, c'est des demandes de l'UPA, de nos groupes directement au gouvernement, qui sont pas visés dans la petite liste, mais ils vont être dans la grande liste dans 1 mois. Donc, oui, effectivement, on est en contact avec les gouvernements, comme tous les secteurs de production économique. Et je le répète, nous, le message, c'est qu'on doit protéger bec et ongle notre agriculture. C'est une question de sécurité alimentaire. Mm-hmm. Et les producteurs et productrices agricoles ne doivent pas être oubliés dans les mesures qui vont être mises en place là, d'atténuation ou d'aide aux entreprises.
Puis comment vous voyez cette approche de consultation au niveau du gouvernement? Est-ce que vous le voyez d'une façon positive, t'sais, constructive? Comment est-ce que ça se passe?
Bien, présentement, c'est positif. Au début de l'année, en janvier, là, il y avait beaucoup... C'était très désordonné, c'était anarchique. Mm-hmm. Il n'y avait pas de leadership, là, ni provincial, ni fédéral. Ils se sont ressaisis. Et présentement, je dirais qu'autant au niveau provincial, ils ont mis des équipes en place. Il y a la ministre Fréchette au niveau du Québec, Industrie-Commerce, M. Legault a pris ça en main. Même chose au niveau fédéral. C'est sûr qu'au niveau fédéral, on va probablement tomber en élection ou il y a des chances qu'on tombe en élection. Ouais. Il va y avoir un nouveau chef du parti, un nouveau premier ministre. On va avoir un nouveau premier ministre la semaine prochaine. Mm-hmm. Donc, ça va peut-être amener un petit peu plus de désorganisation ou pas. Donc, ça va être à suivre. Mais jusqu'à maintenant, on est heureux de la façon là, que tant sur le plan fédéral qu'au niveau provincial, de la façon que nos politiciens ont pris ça en main, mm-hmm. on sent vraiment qu'un, et les provinces entre elles également, que le Conseil de la Confédération. Donc, on sent vraiment qu'il y a une solidarité, il y a une unité canadienne. Puis c'est ça qu'on a besoin. On doit se serrer les coudes. Comme je le disais, ça peut durer un mois, comme ça peut durer 2 ans.
Oui.
Donc, on doit...
Ou quatre, peut-être.
On se le souhaite
non,
pas.
Non, pas du tout.
Mais bon, c'est une guerre commerciale qui peut durer longtemps. Donc, on a à mettre cette option-là dans notre tête que ça peut durer très longtemps et qu'on doit prendre les bonnes mesures pour se prémunir contre les attaques américaines. Mm-hmm. Et en même temps, on doit repenser aussi à comment qu'on veut développer notre économie au Québec, au Canada, comment qu'on veut se repositionner par rapport au marché intérieur, par rapport aux autres mm-hmm. marchés internationaux. Donc, dans chaque tempête, il y a des opportunités là, qui pointent. Puis, donc, le message aussi de l'achat local, de l'achat québécois, l'achat de produits canadiens, ça peut être des opportunités intéressantes pour notre agriculture. On l'a vécu dans la pandémie. Donc, je pense que les gens, en tout cas dans les prochains mois, prochaines années, vont avoir un réflexe qui est beaucoup plus tourné vers l'achat de produits québécois.
Ouais.
Donc, notre secteur agricole, on a des opportunités à saisir dans tout ça. Puis, je reviens sur la gestion de l'offre. On a un très bon système qui nous permet... effectivement de saisir ces opportunités-là à l'intérieur du marché canadien.
Mmh. Oui, puis on l'a vu même au niveau des citoyens à l'ensemble du Canada. Il y a eu beaucoup de patriotisme, on va dire étonnamment, surtout au niveau du Québec. Là, je pense que le reste du Canada est quand même surpris de l'appui qu'ils reçoivent, même de la part du Québec, là, habituellement, qui est peut-être un petit peu plus, on va le dire, souverainiste. Là, on ne se le cachera pas. Ça doit aider aussi, justement, on sent qu'il y a une fédération là, qui se fait au niveau des citoyens. Fait que l'achat local, effectivement, c'est un bon point. Parlant d'opportunités, est-ce qu'il y a peut-être d'autres pays qui pourraient devenir des marchés alternatifs pour nos produits agricoles pour réduire justement cette dépendance-là aux États-Unis?
Je vais juste poursuivre sur la question de la souveraineté.
Okay.
Je m'étais dit jamais je défendrais la souveraineté canadienne, mais dans le contexte actuel de la guerre commerciale, il y a tout le volet économique, là, on en parle depuis tantôt, mais il y a toute la question aussi des intérêts sociaux et environnementaux du Canada.
Oui.
On a un gouvernement au sud qui ne respecte pas les tribunaux, qui ne respecte pas les juges, qui un président qui dit que lui, ce qu'il fait, même si c'est illégal, il le fait pour le bien de la nation, mais c'est illégal. Donc, il s'approprie le rôle de justicier de la nation.
Ouais.
C'est extrêmement dangereux sur le plan démocratique. Oui, il y a la guerre commerciale, il y a les enjeux économiques. On va passer à travers de ça, le Canada, comme on a toujours fait dans le passé. Mais il y a d'autres enjeux qui sont aussi importants que le volet économique.
Ouais.
La crise climatique, c'est comme si la crise climatique n'existait plus.
Mm-hmm.
C'est drill, baby, drill.
Ouais.
On va continuer à alimenter nos usines avec des centrales thermiques au charbon.
Ouais.
On recule de 10 à 20 ans.
Les droits de la personne aussi.
Les droits de la personne au niveau des droits des femmes.
Mm-hmm.
Donc,
contrôle de l'information, tous ces enjeux-là.
Donc, il y a d'autres choses que juste la... Donc, c'est important là, de protéger notre souveraineté canadienne, nos valeurs. Là.
Mm-hmm. Ouais.
Puis, pas juste l'enjeu économique. Puis, au niveau économique, on a des ressources au Canada. C'est 40 millions de personnes au Canada.
Mm-hmm.
Donc, on a un marché intérieur qui est important. Et là, je reviens à ta question.
Oui,
le marché international. Mais le marché canadien, on ne doit pas le sous-estimer. Donc, il est là. Le marché québécois, il y a 33 % de nos produits au Québec produits au Québec, transformés au Québec, qui finissent sur les tablettes des épiceries. On ne pourra jamais être à 100% pour les raisons que j'évoquais en début d'entrevue, mais il y a moyen d'occuper plus de place sur nos tablettes au Québec, dans le reste du Canada. Donc, oui, les marchés internationaux, l'Europe, c'est intéressant, l'Asie, c'est intéressant, mais c'est des marchés qui sont difficiles à développer parce qu'il y a déjà des joueurs très actifs, très puissants, avec des marques de commerce. Mm-hmm. L'Europe, oui, il y a 500... On nous disait, on va signer un accord avec l'Europe, on va exporter du bœuf, on va exporter du porc, il y a 500 millions de consommateurs. Oui, il y a 500 millions de consommateurs, mais il y a aussi des entreprises bien établies avec des marques de commerce.
Ouais.
Il y a ce qu'on appelle des barrières à l'entrée qui sont très difficiles à franchir. Et oui, il faut se tourner vers les marchés internationaux, mais je vous dirais que la première priorité, là, c'est vraiment les marchés intérieurs, marché du Québec, marché canadien. Il y a un potentiel qui est là, qui est intéressant.
Oui, définitivement. Puis, est-ce que, justement, il y a des stratégies que les producteurs pourraient mettre en place dès maintenant pour se préparer aux éventuels maintenant sont là, mais mettons dans des situations économiques un petit peu plus instables.
Je l'ai mentionné tantôt, la prudence au niveau des investissements. Il va arriver quoi avec le prix des intrants? Quand je parlais des intrants, oui, la phosphate, les fertilisants, les produits phytosanitaires, mais aussi les matériaux de construction, les taux d'intérêt. Il va arriver qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois? C'est difficile à prévoir et à prédire. Donc, si tu es propriétaire d'une entreprise, tu es un gestionnaire d'une entreprise agricole, il y a une prudence à avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour les producteurs qui sont sur le marché local, producteurs maraîchers, producteurs de fraises, producteurs de pommes, là, il y a des opportunités peut-être d'accroître nos volumes.
Mm-hmm.
Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant.
Donc, marché de proximité, justement.
Oui, exactement. Donc ça, il va avoir la demande, va être là. Puis les épiceries embarquent avec... j'allais à l'épicerie en fin de semaine, il y avait déjà à mon épicerie, des étiquettes avec qui identifiaient que c'était des produits canadiens ou québécois. Donc, au niveau du marché intérieur, il y a vraiment, vraiment une opportunité qui est intéressante. Ouais. Le Canada, c'est 40 millions de personnes avec un pouvoir d'achat. On est un des plus élevés au monde. On est dans le G7.
Mm-hmm.
Donc, il faut pas sous-estimer le pouvoir économique que notre marché peut nous donner.
Mm-hmm. Ouais.
Quand on calcule la richesse d'un pays, dans le calcul du PIB, tu as un petit peu plus que 70% de la création du PIB, c'est des dépenses, la dépense des consommateurs.
Ouais.
Dans le 30% qui reste, tu as la balance des importations-exportations puis des dépenses d'entreprise.
Mm-hmm.
Mais le gros de l'économie, c'est les dépenses effectuées par les consommateurs, par les citoyens.
Ouais.
Donc, si on achète québécois, si on achète canadien, on fait une expression de mes grands-parents, on fait rouler la pièce à l'intérieur de notre économie. Donc, dépendant comment on veut articuler ça, comment qu'on veut... Il y a vraiment un levier qui est là, qui est important là, pour se sortir pour faire face à la guerre commerciale.
Oui, je pense aussi, effectivement, que les Canadiens se rendent compte du pouvoir qu'ils ont peut-être par rapport à ça aussi, qui, avant d'avoir un enjeu là, devant les yeux, se rendait peut-être pas compte. Peut-être en terminant, vous avez mentionné tantôt la prudence, mais est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez adresser aux producteurs peut-être qui écoutent puis qui s'inquiètent de l'avenir de leur entreprise ou de la situation actuelle qui on va le dire, très instable?
Il faut garder notre sang-froid. Il y a une tempête. Dans les crises, en général, l'agriculture s'en sort quand même bien. Il faut rester unis, il faut que les producteurs restent unis à travers leurs organisations respectives, que ce soit l'union, la mise en marché collective, les coopératives, les filières de production. Le monde agricole doit rester uni. Puis pour rester unis, il y a une responsabilité qui est individuelle.
Mm-hmm.
Donc, il faut qu'il y ait une volonté de tous et chacun de dire on travaille ensemble, on travaille avec nos organisations. Puis, je réinvite à la prudence au niveau des investissements dans la prochaine année. Le revenu net et agricole il est déjà affecté là, par... On a vécu de l'inflation après la pandémie, la hausse des taux d'intérêt. Donc, il y a déjà un stress financier. Donc, de façon là, générale, là, les entreprises... il y en a que ça va très bien, mais il y a quand même un grand nombre d'entreprises que c'est un petit peu plus difficile. Donc, dans ce qu'on va traverser dans les prochaines semaines, les prochains mois, je réitère que les entreprises doivent être prudentes dans leurs investissements.
Donc, M. Ross, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. On le rappelle, c'est une situation qui évolue rapidement, qui risque d'évoluer au cours de la journée, donc le 5 mars. L'épisode sera diffusé demain, le 6. Les gouvernements vont se rencontrer. Donc, j'appelle quand même les auditeurs à rester informés là, de façon générale de la situation, puisque là, ce qu'on a dit, c'est quand même général, mais reste quand même qu'il y a peut-être des choses là, qui vont être caduques, peut-être dans un court, moyen terme. Donc, je vous invite à rester informés, mais par contre, on espère que vous avez apprécié cet épisode informatif, un petit 30 minutes, un crash course de finances, tarifs douaniers sur la situation américaine-canadienne. Donc, merci beaucoup.
Merci, Alette.
Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.